France Bleu Bray Zizel. 16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
Voici le moment de vous présenter notre premier invité, Sébastien Montel. Sébastien, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors, on va s'intéresser principalement à ce qui est ton actualité, cette bande dessinée qui est sortie aux éditions Skolvreis, qui s'appelle O Celtia, sous-titré Le Monde des légendes bretonnes. Et je vois que c'est le tome 1, Le Vent se lève. Tu as combien de tomes prévus déjà? 85?
Oui, il y aura minimum 4 ou 5. Oui.
Voilà, 4 ou 5, minimum. Mais donc là, c'est un boulot. Ce n'est pas ta première bande dessinée.
Non.
On va en profiter comme en revanche, c'est la première fois que tu viens ici à France Bleu Brésil pour faire un petit portrait. Donc, ta naissance, c'est où? Alors, c'est pas très très loin de l'endroit où tu vis maintenant. Maintenant, c'est Guimac. Hein,
mais... C'est ça, j'habite à Guimac. J'ai grandi à Guingamp. Par contre, je suis né dans le Périgord. Je suis né à Périgueux. Mes parents travaillaient pendant 2-3 ans à Périgueux.
Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le Périgord?
Ils étaient dentistes.
Ils étaient dentistes. Voilà. Oui, effectivement.
Mais et ça... du coup, après, ils sont venus sur Guingamp et ils ont été dentistes à Guingamp.
Ils ont continué à être dentistes, effectivement. Et donc, tout à fait logiquement, avec des parents dentistes, tu deviens auteur de bande dessinée.
Exactement.
C'est la logique implacable.
Voilà,
c'est complètement...
ça.
Bien, tu t'en trouves ici. En fait, bon, à part ta naissance dans le Périgord, ton enfance, ta jeunesse, c'est ici en Bretagne. Le premier contact avec le dessin, c'est quoi? Tes parents, ils lisaient des bandes dessinées, par exemple?
Mon père, durant son enfance, a lu beaucoup de bandes dessinées. Je crois qu'il en lit encore un petit peu.
En cachette,
c'est ça. Non, je lui en offre souvent. Et c'est vrai que j'ai lu très rapidement les BD que lui-même lisait plus jeune, donc Corto Maltese, Tintin, comme tout le monde. Et c'est vraiment Corto Maltese qui a été le déclic pour moi, que j'ai lu très jeune, à 7 ans à peu près.
C'est vrai, parce qu'à 7 ans, lire Tintin, Astérix, tout ça, ok, mais Corto Maltese, les albums d'Hugo Pratt, c'est pas un public d'enfants qui est visé, c'est vraiment de la bande dessinée pour les adultes.
C'est vrai que c'est de la bande dessinée pour les adultes, mais d'un certain côté, il a commencé dans le magazine Pif, qui était un magazine pour enfants, donc c'est tout le paradoxe de la bande dessinée. Mais il y a quelque chose dans son graphisme qui m'a attiré tout de suite, le noir et blanc, la qualité du trait. Et je suis passionné d'histoire, donc ça a été aussi une école pour moi de m'intéresser à plusieurs sujets à travers la bande dessinée.
Alors l'esthétique, donc, celle des bandes dessinées de Corto Maltese, enfin ça c'est le personnage de Hugo Pratt, donc, qui est l'auteur du personnage de Corto Maltese, donc une esthétique, déjà à l'âge de 7 ans, t'avais déjà un goût quand même bien, bien précis. Il y a beaucoup de gens qui, à 7 ans, ils préfèrent les petits bonshommes avec un gros nez, alors que toi c'était déjà une esthétique très, très, très classe, qu'on peut le dire.
C'est vrai que j'ai été attiré par le noir et blanc tout de suite avec Pratt, et même ça continue après, parce que j'ai eu assez rapidement aussi des Tardy, Jacques Tardy, qui a fait, donc Adèle Blanc-Sec qui est en couleur, mais qui a fait beaucoup de BD en noir et blanc sur la Première Guerre mondiale, notamment. Et j'ai continué après Comès, tous les dessinateurs sud-américains aussi, qui dessinent beaucoup en noir et blanc.
Muñoz et Sampaio.
Exactement. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour le noir et blanc. Hein. Probablement que c'est ce qui m'a attiré le plus dans la BD déjà, ce graphisme-là.
Donc, passion de Sébastien Montel pour le noir et blanc, qui nous propose un album en couleur. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. On en parlera un peu plus tard. Tu disais que tu étais passionné par l'histoire. C'est pas des études d'histoire que tu as fait, en fait?
Non, j'ai pas fait d'études d'histoire. J'ai fait une école de graphisme à Bordeaux, pendant 3 ans, pour peaufiner un petit peu le dessin, apprendre à utiliser les logiciels aussi, parce qu'il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui pour le dessin. Mais je suis tout de suite retourné vers la bande dessinée. Je suis pas parti vers la pub. Pour moi, c'est le dessin, c'est que pour faire de la bande dessinée ou de l'illustration, mais je l'utilise pas pour autre chose.
Tu fais, d'ailleurs, tu continues à faire non seulement de la bande dessinée, mais de l'illustration aussi.
Exactement. Alors, soit pour l'édition, notamment avec mon éditeur Skolvreis pour un autre projet qui sortira un peu plus tard dans l'année, mais aussi en auto-entrepreneur, parce que j'ai une entreprise d'affiches illustrées de Bretagne, donc c'est tout simplement des paysages bretons, mais dessinés façon bande dessinée, que j'ai dans des boutiques de créateurs, surtout en Nord-Bretagne.
Et si on veut en savoir davantage, on peut aller sur ton site, on tape ton nom, Sébastien Montel, et puis le moteur de recherche fait son boulot, hein, il est là pour ça. Et on arrive sur ton site, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pu voir effectivement les dessins que tu réalises pour ces affiches. Quel format au fait?
Pour les affiches?
Oui.
C'est du 30 par 40.
30 par 40.
Un 30 par 40, c'est du A3 traditionnel.
Donc on peut avoir ça sur un mur sans aucun problème.
C'est ça.
Et là, comment tu travailles? Tu vas voir les lieux que tu dessines, ou est-ce que tu travailles sur des photos représentant?
Alors je vais sur les lieux d'abord, dans un premier temps. Donc je fais un peu de photos, parce que vu que je travaille numériquement, travailler en extérieur, c'est un petit peu compliqué. Donc je repère, je vais sur place, je me balade dans la ville. Bon, souvent, c'est des coins que je connais quand même très bien. Et je prends un peu de ce qu'on appelle la documentation, quoi. Je prends plusieurs photos, etc., que je retravaille chez moi. Des fois, je triche un petit peu quand je fais enlever une personne ou deux ou une voiture pour garder que le paysage. Mais par contre, je travaille plutôt à la maison. Ouais.
La plupart du temps, tu évoques le paysage, mais souvent, enfin, ou alors c'est moi qui suis tombé là-dessus, mais sur le site, j'ai vu surtout des paysages urbains, des bâtiments, des constructions humaines, quoi.
Oui, alors il y a.
Il n'y a pas que ça.
Non, il n'y a pas que ça.
Mais
après,
beaucoup.
C'est vrai que pour le dessin, c'est vrai que je préfère. Enfin, j'aime bien les deux. Mais travailler sur du patrimoine bâti aussi est une autre passion aussi. Ouais. Beaucoup de passion.
Bah, t'en as plein des passions alors. Surtout qu'en plus, juste avant l'émission, on était en train de discuter, on parlait de Formule 1. Donc effectivement,
oui,
il y a des choses qui ont.
J'ai beaucoup de choses qui m'intéressent.
Des choses qui t'intéressent, effectivement. Allez, on continue à discuter avec Sébastien Montel. On va s'intéresser notamment à cette bande dessinée qui s'appelle Okeltia. On se retrouve dans quelques minutes en direct sur France de Brésil. Tusco cet après-midi sur France Bleu Brésil.
16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
Invité de Braise au pluriel, en direct avec nous, Sébastien Montel. On s'intéresse à cette bande dessinée, Okeltia, qui est sortie aux éditions Skol Vraise. La bande dessinée, on évoquait le dessin, ton arrivée à cela, ta fascination pour le noir et blanc, ton intérêt pour l'histoire. et pour la Formule 1, mais ça, ça n'a rien à voir pour le moment, en tout cas. Pour le moment, en tout cas, avec ce que tu nous racontes. Et la première bande dessinée, alors, ça a été dans quelles circonstances?
Alors, la première bande dessinée, c'est une BD plutôt historique, du coup, qui se concentre sur l'expansion coloniale en Afrique de l'Ouest.
Alors, pour quelle raison spécialement? Parce que ça n'a pas de rapport direct avec la Bretagne, ni avec ton Périgord natal. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui t'a intéressé spécialement dans l'Afrique de l'Ouest?
Alors, c'était un prétexte, en fait, tout simplement pour m'intéresser à ce qu'il y avait avant les colonies qu'on connaît tous en Afrique et connaître leur histoire, quels étaient les royaumes, les systèmes qui étaient en place là-bas. Et comme souvent, la bande dessinée ou quand on raconte des histoires, c'est aussi des prétextes pour aller s'intéresser à des sujets qui nous titillent.
Alors, t'as été t'intéressé à cela. Effectivement, on se rend compte, hein, on parle de l'Afrique coloniale, ça remonte au 19e siècle, mais il y a eu des siècles et des siècles avant dont on ne connaît pas grand-chose, sauf si on est un spécialiste ou un passionné. Comment t'as été travaillé là-dessus, quoi? Ça a été de recherche en bibliothèque
Exactement, en bibliothèque. J'ai pu avoir accès, à l'époque, ça se faisait beaucoup quand il y avait des colonnes militaires qui se déplaçaient en Afrique, où le général ou le lieutenant, en revenant, écrivait un livre qui restait à la base dans l'armée, mais qui sont souvent accessibles quand même dans les médiathèques. Donc, du coup, j'ai eu accès à quelques livres comme ça, et ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de matière pour raconter un petit peu ce qui se passait dans ce coin-là.
Est-ce qu'il y a eu des surprises dans ce que tu as découvert dans ces livres, écrits donc par les coloniaux lors de leur arrivée?
Des surprises, oui, quand même. Parce que j'avais peut-être une vision peut-être un peu cliché aussi sur les militaires aussi qui se déplaçaient là-bas. Forcément, on n'a pas forcément un très bon regard sur les colonies, ce qui est normal. Mais aussi de se rendre compte que certains militaires n'étaient pas dupes non plus de la raison pour laquelle ils se déplaçaient, pourquoi ils étaient là-bas, et que c'était peut-être un peu loin des idéaux qu'ils défendaient eux-mêmes en premier.
Ah oui, ça a été la sorte. Et pourtant, la plupart du temps, ce sont des gradés qui ont écrit les livres que tu évoques. Et les gradés, ils sont quand même dépendants de la hiérarchie, ils sont visés, quoi.
C'est ça. En fait, de toute façon, dans les livres, on va être choqué par des éléments de langage que bien sûr on n'oserait plus utiliser aujourd'hui, heureusement. Mais en même temps, il y a, par exemple, par rapport à certains rois africains, une sorte de respect de l'adversaire finalement, parce qu'eux-mêmes étaient surpris aussi de la tactique qui était développée en face, etc. Après, il y a beaucoup aussi d'incompréhension, des choses qui sont considérées comme inférieures parce que nous, on les comprenait. Enfin, c'était très différent de ce qui se passait en France. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. C'était pas une question de juger, je voulais pas non plus partir dans le jugement, c'était de comprendre qu'est-ce qui motivait les hommes à partir là-bas et aussi comprendre les hommes qui étaient sur place et qui voyaient de nouvelles personnes arriver chez eux.
Qu'ils n'avaient pas spécialement appelé, quoi.
Voilà,
de leur désir. Sébastien Montel, donc première bande dessinée sur l'Afrique de l'Ouest, la période avant la colonisation. Mais alors, ça, c'est pour l'histoire, ok, on voit d'où elle vient, mais l'Afrique, tu n'y as pas été. Donc, pour les. Si ?
Je suis allé à Madagascar.
Ah bon, je te regardais, je me disais, tu sais, il a l'air de. Oui, donc tu as été quand même. Ah bon, d'accord, écoute, voilà. Donc tu y as été. Mais ça ne répond pas entièrement à ma question. J'imagine qu'il y a aussi une recherche iconographique. Enfin, tu as dû travailler sur photos, sur.
Exactement. Il n'y a pas énormément de sources sur cette période-là, ce qui est assez compliqué, mais on arrive quand même toujours à trouver à droite à gauche. Et oui, on travaille sur des vieilles photos noir et blanc, mais qui étaient les premières. Hein. C'était à la fin du 19e. Hein. Mon histoire se passe en 1886. Et donc du coup, il n'y a pas beaucoup de matière hein, quand même pour travailler dessus.
Ça a été. Chez quel éditeur as-tu sorti cette bande dessinée?
Alors, chez Yil.
C'est bande dessinée parce qu'il
y a deux tomes. Ouais. C'était chez Yil Édition, qui est installé à Plounévé-Parzay, dans le Finistère.
Ok, ça a été facile de convaincre un éditeur breton de parler justement de l'Afrique de l'Ouest?
Il a un catalogue très large, donc il y avait déjà des bandes dessinées historiques hein, dans son catalogue. Donc,
il y en avait qui avaient suivi les plâtres avant, donc tu pouvais y aller.
Voilà, c'est ça.
Ceux qui se sont fait engueuler, c'était déjà avant, ça s'était passé. Bon, alors là maintenant, on en arrive à la bande dessinée actuelle, celle qui est toute récente. Là, on en revient avec un titre comme « O Keltia », on se dit cette fois-ci, on n'est plus franchement en Afrique de l'Ouest. Là.
Non, on est en Bretagne.
On est en Bretagne.
Voilà, exactement. Avec une petite référence à un titre de Glenmore, « O Keltia », de Glenmore, une chanson que j'aime beaucoup. Et c'était un petit clin d'œil au passage.
Alors, c'est quoi l'idée de départ de O Keltia? On va trouver des légendes bretonnes. On va dire qu'il y a des gens qui essayent de mettre de l'ordre dans les légendes bretonnes.
C'est ça. En fait, je me suis intéressé évidemment aux légendes bretonnes. Bon, il y a ce qu'on sait déjà tous à peu près, les Korrigans, l'Ankou, les Chevaliers de la Table Ronde, qu'on a en commun avec l'île de Bretagne et la Bretagne continentale. Mais il faut avouer que c'est un peu le bazar. C'est-à-dire que quel lien peut-on faire entre Arthur, les Corrigans, les Fédéoul, le peuple Morgan, c'est un peuple pas très loin d'Ouessant qui vit sous la mer, la ville engloutie qu'on connaît bien à Quimper, avec le roi Gradelon qui est venu ici. Donc c'est un peu le bazar tout ça.
Donc tu t'es dit, moi Sébastien Montel, vous allez voir, je vais mettre de l'ordre là-dedans, fini de rigoler.
Alors je vais...
J'arrive.
Alors c'est pas vraiment mettre de l'ordre, parce que quand même, c'est pas non plus une œuvre scientifique, hein. Évidemment c'est une interprétation. Mais j'ai voulu m'amuser en tout cas à essayer d'avoir un lien conducteur entre toutes ces légendes-là, même si pourtant elles sont très différentes, parce qu'il y a des légendes médiévales, il y a des légendes qui sont plus récentes, etc. Et donc de m'amuser avec ça, et aussi de m'amuser aujourd'hui avec ça. C'est-à-dire que je tenais absolument à ce que ça se passe à notre époque, donc en 2021. J'ai pas mis de masque, par contre, à mes personnages.
Mais est-ce que tu l'as dessiné pendant le confinement, premier confinement?
Ouais, les pages, je les ai commencées au mois de mars, donc au début du confinement, donc, exactement.
Ouais, au début du... Ah non, il n'y avait pas de masque encore à l'époque.
Non, c'est vrai, ça, on n'en avait pas.
C'est après
que c'est devenu...
Il n'y avait pas de masque, on en voulait, après il y en a eu, donc on n'en voulait pas.
Voilà, exactement. Voilà.
Donc là, dans la BD auquel tient, il n'y a pas de masque sur les personnages. La modernité fait son... Moi, ça m'a fait sourire, c'était dans les toutes premières pages, où on voit, je ne sais pas quelle page c'est, voilà, c'est ça, c'est la page 4, donc très rapidement, on arrive... c'est dans le prologue, on entend le wikawak, wikawak, donc ça on sait que c'est le grincement du bruit de la charrette de l'Ankou. On tourne la page, et hop, qu'est-ce qu'on voit? Ah bah dis donc, la charrette de l'Ankou, c'est une deux chevaux.
Et voilà.
Un roulant deux chevaux, l'Ankou, c'était, c'est un peu la surprise.
Voilà, l'Ankou est passé à la modernité, mais pas totalement.
Oui, bah c'est
il est resté en deux chevaux.
C'est la voiture pour les monts d'Arrée, ça, la
exactement.
Deux chevaux. Ouais. Donc effectivement, c'est ça. Alors ça a été, il va y avoir de l'humour comme ça à maintes reprises dans l'album. L'album, c'est le début hein, d'une saga avec des personnages. On peut citer quelques-uns des personnages.
Oui,
peut-être.
Bien sûr.
D'ailleurs, pour le savoir, pour les mémoriser en fait, hein, au début de l'album.
Il y a un portrait. Il y a un portrait.
Alors portrait, je vois par exemple celui qui s'appelle Yawank. Ben, il est pas jeune du tout, Yawank.
Non, Yawank, c'est l'ancien garde d'Is la Nouvelle. Donc je pars du principe que Is a été refabriqué par les légendes pour elle. Et Yawank est l'ancien garde de cette cité et qui se retrouve en Bretagne pour enquêter sur tous les problèmes qui se passent dans le monde des légendes.
Voilà, c'est donc l'enquêteur qui va être, on peut dire, le personnage central. Pas le seul à être important. Il y a d'autres personnages qui sont importants. Il y a Azilis, par exemple.
Alors, Azilis, c'est une adolescente qui, elle, fait partie de notre monde. Mais en même temps qu'il y a déjà un pied dans le monde des légendes, parce qu'elle a la particularité de vivre dans une ferme où il y a un taureau bleu qui a le don de parole. Donc du coup, elle a déjà un premier contact, mais sans connaître le reste de cet univers-là. Et justement, ça me permet d'avoir un... Elle représente un petit peu le public, parce qu'elle va découvrir le monde des légendes, et ça me permet de lui faire poser les questions qu'un lecteur pourrait se poser sur les Corrigans et toutes les autres légendes.
Voilà, c'est elle qui fait le chaînon entre l'humain actuel et puis le monde personnage magique, de légende.
C'est ça, exactement.
Effectivement, et elle est déjà effectivement dans le milieu grâce à son taureau bleu qui parle. Effectivement, mais elle a une vilaine marâtre qui lui fait des misères.
C'est ça.
Sa belle-mère
à la maison, ça se passe pas très bien, on va dire. Et puis un jour, il décide quand même de faire abattre ce taureau et tout simplement, elle décide de partir avec lui pour sauver ce fameux taureau qui est son meilleur ami en fait.
Voilà, là on a étalé un petit peu ce qui se passe au départ.
Au départ.
L'Ankou dans sa deux chevaux, Azilis, le taureau bleu, on voit comment c'est parti. Allez, on continue à parler dans quelques petites minutes avec Sébastien Montel, bien sûr, toujours en direct de cette bande dessinée auquel tient le monde des légendes bretonnes.
France Bleu. France Bleu, partenaire de HPI, la nouvelle série policière de TF1, jeudi 13 mai à 21h05. Morgane, femme de ménage, 160 de QI, commence à trouver ses marques comme consultante de choc de la police de Lille. La voici confrontée à une intrigante tentative de meurtre. La victime est-elle vraiment ce qu'elle prétend? HPI, avec Audrey Fleurot et Mehdi Nebou, jeudi 13 mai sur TF1 à 21h05, avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Toute l'actu à l'ONU, les matchs du PSG ou de l'OM, des centaines d'enquêtes sur le KGB, les concerts d'ACDC, et tout ça dans une seule appli radio gratuite. Vous allez aimer, c'est QFD. Radio Player France, 200 radios, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts en une seule application. Disponible dès maintenant et gratuitement en téléchargement.
Bouygues Télécom.
Franck de Franconville rêve d'une télé grand écran connectée à la fibre pour profiter à fond des matchs de foot sans que ça ne lui coûte une fortune. Eh bien Franck, écoutez cette offre formidable.
En ce moment chez Bouygues Télécom, ce sont les offres de compète. Avec Bibox Fibre Smart TV, offrez-vous la fibre et une télé connectée Samsung 75 pouces pour 499€ au lieu de 1199€. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Paiement en 4 fois sans frais, engagement 24 mois à 39,99€ par mois, télé vendue par Samsung, conditions et éligibilité en boutique.
Terre à terre, quand je suis mise à mal, moi je fais mes mal. Quand le monde s'est couvert, je vais croiser mes fers et mes failles. Tu sens dans l'air ces embruns qui s'élèvent et puis me narguent. La brume est claire, il est temps que j'embarque. Un voyage en mer, des violons, des voiles. Chacun ses repères, c'est des toiles. J'ai dans mes galères des violons qui dévoilent les coins de mon ciel où je pleure. Sous le vent de légendes légères percelées des vieux chemins de pierre, mes aventures seront étrangères.
Gavini avec ce titre des violons et des voiles sur France Bleu Brésil cet après-midi. Il est 16h presque 32 minutes.
16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
Il nous reste encore un petit moment à passer en compagnie de Sébastien Montel. On évoque cette bande dessinée, le premier tome appelé Le Vent se lève de cette série Au Keltia qui vient de sortir chez Skol Vraise. Avant de revenir à la bande dessinée, à l'objet lui-même, Sébastien, c'est comment une vie d'auteur de bande dessinée, on passe beaucoup de temps chez soi, dans son... T'as un atelier où tu dessines, dans quelles circonstances dessines-tu?
Oui, on peut dire que j'ai un atelier, enfin j'ai, disons, une chambre d'amis qui sert de bureau, et non, je travaille beaucoup...
Parce que t'as pas d'amis, alors du coup...
Si, mais bon, en temps de confinement, c'est plus compliqué. On les les vois beaucoup moins. Mais non, je travaille beaucoup, quasiment exclusivement à la maison, sauf quand j'ai besoin de me déplacer pour.
Oui, on l'évoquait alors les photos, les recherches, etc. Enfin. Mais le reste du temps, la majorité du temps, c'est dans ta chambre d'amis, atelier.
Quoi. Voilà, c'est ça, exactement.
Ouais. Alors, ça, parce qu'une journée, raconte-nous une journée. Là aujourd'hui, si tu n'étais pas venu ici à la radio, que ça serait passé comment ?
Alors, c'est vrai que ça dépend en fonction sur le projet sur lequel je suis en train de travailler. Mais si on reste sur la bande dessinée, souvent, le matin, je me lève comme n'importe quelle personne qui va au travail, un petit café, et puis c'est parti. Et souvent, je passe la matinée à faire mes crayonnés. C'est vrai que j'aime bien commencer le matin plutôt par les crayonnés. Et par contre, je préfère l'après-midi faire les ancrages. Parce que j'ai quand même un dessin qui est assez rapide. En général, c'est une journée, une planche. À peu près.
Une journée, une planche, c'est rapide.
C'est très rapide, ouais. Après, il y a d'autres auteurs qui travaillent aussi rapidement, mais c'est vrai que c'est plutôt une journée, une planche, et je préfère revenir après, à la fin du projet, revenir retravailler les planches s'il y a besoin. Mais moi, j'ai besoin que ça tombe, de tomber les pages, comme on dit dans le métier. Donc, du coup, oui, j'ai un rythme assez soutenu. Et c'est des bonnes journées de travail. Hein.
Ouais. Là, on l'évoquait, donc les crayonnés le matin et puis l'ancrage l'après-midi. Mais l'histoire, là par exemple, dans ce tome, Le Vent se lève, le premier tome de là, ce qui va être une série auquel tient, l'histoire, tu l'avais déjà écrite avant ?
Alors, déjà le projet, ça fait 4 ou 5 ans déjà que je l'ai en tête.
Ah oui, parce qu'on évoquait le début lors du confinement, le premier confinement en mars 2020, mais en fait, ça trottait dans ton esprit depuis pas mal de temps.
Depuis un moment, oui, ça fait un moment que j'avais l'histoire, cette envie-là de raconter, de jouer avec les légendes dans notre monde actuel. Donc du coup, c'est vrai que pendant 4-5 ans, il y a l'histoire qui se développe un petit peu dans la tête. Je fais un arbre avec plein de pistes pour l'histoire. Et par contre, après, je fais un premier plan pour l'histoire, pour savoir où est-ce que je veux arriver. Je commence souvent par ma fin, pour savoir où ça se termine.
Ah oui, tu te laisses pas surprendre par le déroulé de l'histoire, tu sais déjà où ça va s'arrêter.
Voilà, parce que c'est ça qui est important, c'est quand même à la fin de l'histoire que ça plaise quand même aux gens, et souvent on pourrait se laisser emporter, effectivement. Et donc du coup, j'essaie de développer l'histoire avant, bien sûr, et pour les dialogues, ça dépend. C'est-à-dire que pour les scènes où il y a des dialogues qui sont très importants pour l'histoire, parce qu'il y a des explications, etc., ceux-là, je les écris un peu comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire que j'écris d'abord mon texte, et je fais mon storyboard. Donc le storyboard, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le brouillon du dessinateur, si vous voulez. Où on cherche la mise en page, de quelle façon on va raconter la scène. Et donc du coup, j'essaye de d'écrire d'abord comme une pièce de théâtre, et ensuite je fais le storyboard. Alors que par contre, pour les scènes d'action, les scènes un peu plus légères ou des scènes d'humour par exemple, là je fais le storyboard tout en créant les dialogues, pour avoir un peu plus de tac au tac. C'est souvent, quand on écrit à l'écrit, ça peut être un petit peu plus lourd, donc voilà, j'essaie d'alterner un petit peu les deux.
Oui, parce que ça peut être aussi une recherche de un style, quoi, un genre qu'on peut se donner. Je pense à des bandes dessinées de classiques, genre Blake et Mortimer. Les premiers, ça a été repris par d'autres dessins, mais au début, c'est Edgar Pierre Jacobs. Lui, il accordait une énorme place au texte. Il y avait parfois, alors dans le texte, dans le phylactère, dans la bulle, il y avait déjà pas mal de textes, mais alors généralement, en dessous ou au-dessous, il y avait 5, 6, 7, 10 lignes d'explication. Ça a été un choix esthétique.
Ça a été un choix. Après, je pense que c'est le seul qui puisse le faire aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on ne fait plus trop, parce que il ne faut pas non plus assommer le lecteur non plus avec des gros textes. Mais c'est devenu un style, par contre.
Oui,
c'est vraiment le style de Blake et Mortimer.
Les continuateurs de Jacobs font la même chose.
Ah oui, ils ont gardé ce style-là, mais c'est automatiquement, on s'est identifié Blake et Mortimer. Quoi.
Ouais. Tu nous disais au départ que ton choc esthétique, même quand tu étais gamin, même quand tu avais 7 ans, c'était plutôt les bandes dessinées de Hugo Pratt, donc de Corto Maltese. Tu étais très intéressé par le noir et blanc. Cette bande dessinée-là, la tienne, auquel tient, elle est en couleur, certes, mais là, le noir est très important quand même.
Je pense que je m'en défrais jamais du noir et blanc, donc effectivement il y a toujours des traces dans mes pages de noir, surtout qui m'aident aussi d'un point de vue narratif pour amener l'œil du lecteur à droite à gauche. Les masses de noir, ça permet de stopper le regard, donc c'est un peu une petite astuce, et aussi tout simplement parce que graphiquement j'aime ça, donc Après, là, l'histoire nécessitait quand même un peu de couleur. On est dans un monde un peu fantastique, donc le monde magique. Voilà, il y a besoin d'avoir des couleurs pour faire passer ces messages.
Il y a un choix également au niveau des cases. Parfois, c'est une case unique sur une page. Parfois, c'est quatre cases. Parfois, c'est plus. Parfois, c'est moins. Parfois, c'est régulier et parfois pas du tout.
Exactement.
T'as voulu te fixer aucune limite, en fait.
Ben, je me suis dit que pour que l'histoire soit dynamique à lire, il y a certaines BD aussi qui peuvent être intéressantes pour ça, et notamment dans le manga. Le manga est très déstructuré comme ça, et c'est souvent très très dynamique à lire. Le comics américain aussi est très dynamique. En France, on a une autre vision un petit peu de la façon de raconter des histoires en bande dessinée. Et le but là, c'était un peu d'être au carrefour des trois, quoi, des trois styles. J'emprunte quelques codes au manga, notamment sur les expressions du visage. Et par contre, pour les cases, c'est vrai que là, j'ai plus une culture comics pour essayer de donner un peu de force à l'histoire.
Alors, ce tome de la série Okeltia se déroule beaucoup vers l'Ille-et-Vilaine. À un moment, on se retrouve à Rennes. On va se retrouver à Fougères, de plus en plus dans les pays de l'Est, hein, on peut le dire. Et la suite, alors, tu vas rapatrier tes héros vers l'Ouest, vers
Tout à fait. En fait, l'histoire va commencer en Haute-Bretagne, donc à l'est de la Bretagne, et va se déplacer petit à petit vers l'ouest de la Bretagne. Et le but, c'est d'essayer de faire déplacer mes personnages un petit peu partout sur ce magnifique terrain de jeu qui est notre bonne vieille Bretagne.
Tu évoquais cet album où tu avais déjà écrit la fin avant de commencer. Est-ce que pour la série complète, est-ce qu'elle est déjà écrite? Est-ce que tu sais déjà comment tu vas terminer?
Alors pour la série, je sais déjà ma fin. Bien sûr, je sais ma fin, je sais les grandes étapes pour y arriver. Mais c'est pour ça aussi, par contre, que je ne sais pas exactement combien il y aura de tomes. Parce que des fois, malgré tout, on a des personnages qui, notamment là dans ce tome-là, j'ai un personnage qui s'appelle Barzu, qui était censé être là que dans ce tome-là. Et en fait, il prend un peu d'épaisseur et j'ai envie de le revoir. Donc, il reviendra. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas exactement combien il y aura de tomes. Mais par contre, je sais ma fin. Ouais.
Ouais. Ok, tu laisses quand même une petite place à l'improvisation.
À l'improvisation.
On ne sait jamais. Un personnage qui te plaît finalement plus que ce qui était prévu, il va prendre de la place. Quoi.
Exactement.
Effectivement. Bah, écoute, je te souhaite un bon boulot parce que tu en as pour plusieurs années en fait. Hein.
J'espère. J'espère. j'ai attaqué le tome 2 là.
Voilà, le tome 1, en tout cas, le seul pour le moment qu'on puisse se procurer, c'est le tome 1 qui s'appelle Le Vent se lève. Donc la série, ce serait Okeltia, le monde des légendes bretonnes. Ça vient tout juste de sortir chez Skolvreys et c'est Sébastien Montel qui en est le créateur. Merci Sébastien d'être venu passer un petit moment de cet après-midi avec nous en direct sur France Bleu Brésil.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, il n'y a plus qu'à remonter avant 19h à Guimec.
Exactement, à travers les mondes d'arrêt.
En raison du couvre-feu. Merci, à une prochaine Sébastien. Au revoir.
Un peu plus près des étoiles.
Soprano ce samedi après-midi sur France Bleu, Brésil, 16h44.
16h18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
Voici notre nouvelle invitée, elle s'appelle Christine, Christine Lederoute, bonjour.
Bonjour Michel.
Merci de nous avoir rejoint en studio à France Bleu, Brésil, même si vous n'avez pas eu beaucoup de route à faire.
Non.
Parce que vous habitez pas très loin d'ici, à ce qu'on m'a dit.
Oui, à moins d'un kilomètre.
À moins d'un kilomètre. Alors, on est là avec vous pour parler, en fait, de littérature jeunesse. Vous êtes l'auteur de différents livres pour jeunes. Alors, comment êtes-vous arrivé à la littérature jeunesse? Déjà, pourquoi la littérature? L'envie de raconter des histoires, j'imagine?
Voilà, c'est ça. Ça a commencé il y a un peu plus de 10 ans, où je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire une histoire comme ça. Et puis, mon premier livre, c'était sur un petit peu de la science-fiction fantasy. Du coup, je l'ai édité à compte d'auteur. J'ai vu que ça plaisait beaucoup, puisqu'avant, j'étais prof de tennis à Quimper, donc du coup, juste à côté. Et du coup, beaucoup d'enfants l'ont lu et j'ai eu un très bon retour. Et un jour, j'ai croisé un journaliste de Quimper qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'écris pas un polar dans le milieu tennistique ?» Puisque personne, c'est vraiment un milieu dont personne ne parle, il n'y a pas grand-chose sur le sujet. Puis je me suis dit « Pourquoi pas, mais il faut vraiment trouver l'idée. » Et un jour, je me suis mis bénévole à l'Open de tennis qui a lieu ici à Quimper depuis quelques années déjà, au mois de février. J'ai été bénévole, je donnais des cours de tennis à plein d'enfants de Quimper. Et puis j'ai vu ce monde devant moi, ce monde tennistique, cette planète tennis avec les ramasseurs de balles, les joueurs. À l'époque, c'était à Quimper, au tennis club. Donc c'était vraiment dans un vase clos. Et voilà, est née comme ça une histoire. Et mon premier roman policier est arrivé qui s'appelle « Complot sur l'Open ». Voilà.
Alors le complot sur l'Open, c'était votre milieu en fait, le milieu du tennis. Et puis en même temps, vous donnez des cours, c'est uniquement à les enfants?
Voilà, c'est ça, j'étais en fait pas tout à fait prof de tennis, j'étais initiatrice tennis. Donc,
c'est quoi la différence entre initiatrice et prof?
Alors les profs de tennis, ils passent un BE, alors je crois que ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Ils font un niveau quand même plus élevé que le mien au niveau tennistique. Et moi, c'était juste pour les enfants. On avait le droit de donner des cours de tout petit, 3 ans jusqu'à 16 ans.
Voilà. Quand est-ce que vous êtes tombé dans le tennis? Parce que vous avez joué avant d'enseigner, bien évidemment. Vous avez fait de la compétition?
Oui, j'ai fait la compétition pendant plusieurs années ici à Quimper, au niveau régional. Et ensuite, j'aimais tellement ce sport-là que j'ai voulu enseigner aux enfants. Et voilà, c'est arrivé comme ça.
Et voilà. Et vous continuez à enseigner aux enfants maintenant?
Le tennis, non, ouais. J'ai arrêté.
Ah, vous avez arrêté?
Oui, par contre, je joue toujours. Enfin, en ce moment, c'est un petit peu entre parenthèses, mais c'est un sport que j'adore.
Mais le tennis, on devrait pouvoir y jouer sans problème. On est a priori que 2 voire 4 sur le court et on est en extérieur?
Oui, en ce moment, oui, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas repris encore.
Ça vient s'ouvrir. C'est pas une interdiction.
Voilà. C'est depuis vraiment peu de temps que c'est ouvert à Quimper. Là, ça doit faire un peu moins d'un mois maintenant. Et en extérieur, donc il faut jouer avec la météo et puis. Qui n'est pas toujours complice.
Il fait très beau, il y a un microclimat. Sur le tennis de Quimper, c'est bien connu, il pleut à côté, autour, sur la radio par exemple, mais pas sur le terrain, juste tout près. Alors, on continue bien sûr à discuter avec vous, Christine. On s'intéresse à des nouveautés qui ont un éditeur en commun. Je pense au... qui est Locus Solus. Je pense au Fantôme de Loch Lomond, je pense à Classe Pirate. On va en parler plus tard bien sûr, mais... comment décidez-vous à quelle classe d'âge vous adressez quand vous commencez une histoire? Vous savez, est-ce que ça va être pour des 6, 7, 8 ans, enfin les premiers, ceux qui apprennent à lire seulement, ceux qui viennent d'apprendre à lire, ou pour des pré-ados ou pour des ados? Comment vous décidez ça?
Alors moi, je ne me suis jamais posé cette question.
Ah bon?
J'ai commencé à écrire, j'ai écrit ce que j'avais vraiment envie d'écrire, notamment avec Complot sur l'Open, puisque ça a été mon premier polar. Et puis j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire en fait. Et c'est une histoire assez sympathique qui m'est arrivée, puisque je pensais les Complot sur l'Open aussi le faire l'éditer, enfin c'est pas l'éditer mais le mettre à compte d'auteur. Et il s'est trouvé que j'ai appelé la personne qui s'était occupée de moi, qui était Sandrine Pandaven, qui est aussi associée avec Florent Patron dans Locus Solus, et qui m'a dit mets-moi ton tapuscrit puis je te dirai ce que j'en pense, et puis si ça nous plaît, pourquoi pas, on l'éditera. Ça leur a plu, et l'histoire est partie comme ça, et c'est eux qui m'ont dit, écoute, ton texte correspond plus à du 9-12 ans. Voilà,
donc c'est l'éditeur qui décide.
Tout à fait, voilà. Par contre, pour Classe Pirate, c'est l'inverse. Ils avaient une idée de créer, pour les plus petits, un livre avec beaucoup d'images, puisque c'est beaucoup de textes, peu de textes et beaucoup de dessins. Et du coup, ils m'ont associé avec un illustrateur connu de la bande dessinée qui est Gwendal Lemercier. Et là, par contre, on savait dès le départ qu'il fallait que j'écrive. Il m'avait donné donc l'âge qui était lecteur débutant. Et lecture facile. Donc je me suis adaptée et voilà comment est née Classe Pirate.
Oui, c'est-à-dire qu'un livre peut très bien être... La même histoire peut être racontée, mais on va utiliser des mots plus ou moins simples, des tournures de phrases plus ou moins simples en fonction de l'âge auquel on s'adresse.
Exactement. C'est le vocabulaire qui change, des phrases plus courtes, ce genre de choses. Oui, voilà, c'est exactement ça.
On continue à discuter avec Christine Ledéraud dans quelques toutes petites minutes en direct, hein, bien sûr, sur France Bleu Brésil. Castles, un titre signé Freya Ridings, cet après-midi sur France Bleu Brésil.
Cette semaine, France Bleu donne carte blanche.
Salut France Bleu, c'est Calogero.
À Calogero.
Je vous prépare une semaine 100% rock'n'roll.
Et France Bleu vous offre une basse.
Connectez-vous à France Bleu ou francebleu.fr pour gagner une basse dédicacée.
Et Calogero prend l'antenne sur France Bleu.
Et on se retrouve ce dimanche pour vous faire découvrir une autre facette de Billy Joel, des chansons un peu moins connues dans le classic rock sur France Bleu.
Ce dimanche, Calogero vous raconte Billy Joel, classic rock spécial, uniquement sur France Bleu, dès 22h30.
Enchoutreuse, comme son nom l'indique, c'est adreuse. Ah, Cléo Derrer à Bepseur.
Musins au chanvre goudronné, et triant du vendache, et la quête stoup, et tout.
Enchoutreuse, ça fait vraiment du bruit. À partir de 12h30, et le soir à partir de 20h15. Enchoutreuse, Nahazo, Bum.
France Bleu et le magazine Régal vous invitent à de beaux voyages culinaires à travers les régions françaises. Vous êtes en quête de goût et vous aimez cuisiner ? Retrouvez dans Régal des recettes gourmandes et accessibles, inspirées des produits de saison. Ce mois-ci, printemps en Auvergne. Les troupeaux en estive produisent les fourmes, le Saint-Nectaire, le Salers. Découvrons le fin gras du Mézenque. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
Nous sommes en direct avec Christine Lederoute. On évoque les livres pour enfants, pour jeunes, on va dire, dont elle est l'auteur, parfois avec des illustrateurs. Par exemple, bien dans Classe Pirate, on en parlait tout à l'heure, illustration de Gwendal Le Mercier, illustration qui prennent de la place, hein, dans c'était volontaire, dans le cadre de ce livre. Dans cet autre livre, Les Fantômes de Loc-le-Monde, il y a aussi des illustrations, mais elles prennent moins de place. Elles sont signées Joël Legarde. Comment ça se passe, le travail avec les illustrateurs? C'est eux qui ont votre manuscrit et puis qui se lâchent ou...
Voilà, tout à fait. En fait, moi j'écris et ensuite donc j'envoie mon tapuscrit chez mon éditeur et lui, il l'envoie après directement au dessinateur, enfin à l'illustrateur. Donc pour, par exemple, ma série des 4-7, bah, c'est...
Dites-nous ce que c'est que les 4-7.
Alors les 4-7, ce sont mes romans policiers pour 9-12 ans. Donc c'est les aventures de 4 jeunes quimpérois qui mènent des enquêtes policières en Bretagne, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc voilà, donc, et les dessins sont faits par l'illustrateur Joël Legarde, qui est un Nantais, et qui lui donc reçoit le tapuscrit, et il fait un petit dessin pour chaque chapitre, et deux grands dessins dans le roman.
Et après,
donc,
vous voilà. Les voyez, ces dessins, avant qu'ils soient publiés?
Ah oui, bien sûr, ouais. Il y a beaucoup d'échanges avec l'éditeur, moi et l'illustrateur, donc si on me demande si ça me plaît, si les couleurs, par exemple pour la couverture, c'est comme j'imagine, oui, il y a beaucoup d'échanges, hein, justement, ça c'est intéressant aussi.
Alors, ça se fait, j'imagine, depuis un an, ça se fait plutôt en visioconférence ou téléphone ou choses comme ça?
Alors déjà l'illustrateur, il habite à Nantes, donc Joël Legarde, donc on se voit rarement, c'est vu à Saint-Malo, en 2019, pour le Grand Salon. On se voyait pour la première fois, par contre on discute beaucoup par mail, et puis tout s'est fait par visio. Ouais.
Ouais. Ouais, ça, c'est un peu... La chose à laquelle tout le monde est soumis là depuis
quelques temps. Je pense, oui.
Il peut y avoir une complicité entre un illustrateur qui vit loin, Nantes, c'est pas le bout du monde, mais enfin, vous voyez pas, et vous, sauf de manière très exceptionnelle. Il peut y avoir une complicité qui se crée comme ça entre un auteur et son illustrateur?
Ah, je pense que oui. Hein. Bon, c'est vrai que avec Joël, il a moins de dessins à faire que Gwendal, par exemple. Et on discute ensemble. Mais c'est vrai que bon, complicité. On travaille déjà que sur ces livres-là. Ils sortent. Il y avait un par an en sortie. Et quand on s'est vu pour la première fois à Saint-Malo, on était très contents de se voir pour la première fois. Exactement.
Ouais.
Donc on a fait des photos et tout, et on était vraiment contents de se voir pour de vrai, en fait.
Voilà. Et puis à cette époque-là, il n'y avait pas de masque, donc
non.
Allez, on continuera à discuter avec Christine Lederoute après les infos, car les infos arrivent dans 3 minutes, puisqu'il est 16h57 cet après-midi sur France Bleu Brésil.